Bonjour Serge, bonjour Stéphane. Nous nous retrouvons donc pour parler dans le cas de Serge d'une double actualité, la sortie de L'Homme truqué, one shot appartenant à l'univers de la Brigade chimérique, la fin du premier cycle de Masqué, et dans le cas du malheureux Stéphane, une double actualité également, la fin du cycle Masqué et l'annonce, j'allais dire dithyrambique, qui va nous faire d'ici quelques secondes, comme quoi il a re-signé pour pouvoir produire à nouveau deux albums. Et une splendide interview choc qu'il a divulguée pour le site Comics Place, où il s'est amusé, on va dire, par rapport au milieu et à certaines réalités ô combien cruelles pour les lecteurs. Alors, revenons tout d'abord au malheureux Serge, qui, je le vois, tente de se réfugier dans
Derrière
son
toi.
verre rempli d'orange. Orange, super-héros, faut-il y voir un message caché?
Oh, ça, c'est vraiment
Il vient de te projeter déjà.
c'est vraiment du vice de voir des allusions aux super-héros dans un jus d'orange. J'ai aussi une vie en dehors des super-héros.
Et elle est remplie de jus d'orange.
Allons-y.
Dans notre cas bien précis, il m'apparaît important de parler justement de l'homme truqué du masqué, vu que pour ma part, on rentre typiquement dans le même cycle.
Oui.
Vu qu'avec la brigade chimérique, tu montes la fin des héros qui quitteront l'Europe pour s'installer, j'allais dire sous le terme super-héros aux États-Unis. Avec Masqué, tu signes leur grand retour dans une capitale emblématique qui est Paris, capitale de l'imaginaire, dans le sens, en voulant montrer justement qu'un super-héros peut aussi bien vivre à Paris qu'à New York.
Oui, c'est parfaitement résumé, c'est le meilleur pitch qu'on puisse faire. Le travail se fait à cheval sur deux éditeurs, c'est-à-dire que le cycle consacré aux super-héros anciens se développe à la Talente et le cycle consacré à leur retour se développe chez Delcourt, avec deux dessinateurs différents. Donc il n'y a jamais d'argument qui dit qu'il y a une continuité formelle, on retrouve les mêmes personnages exactement, etc. Mais on raconte l'histoire et on fait la généalogie du même univers et on raconte la renaissance de cet univers aujourd'hui. Voilà, donc on peut effectivement traiter les deux albums d'un coup, c'est tout à fait légitime.
Autre clin d'œil que l'on retrouve dans le tome 4, alors j'ai géré deux qui ont été superbement mis en scène par Stéphane Créti. Le premier, c'est un moment, un clin d'œil à Superman, finalement super-héros créé par deux auteurs européens,
en
deux auteurs juifs, effectivement, quittant l'Europe, j'allais dire, à l'installation du nazisme et ce qu'ils sous-entendaient par rapport à eux, et mettant en scène leur idéal, leur espoir, pour ainsi dire, à travers un personnage étranger, choisissant de s'installer, enfin débarquant comme eux en Amérique et choisissant d'en faire sa terre d'accueil.
Oui, bon, Superman, moi je sais qu'il est souvent, comment dire, il est tellement évident qu'on finit par plus le voir. C'est un peu comme c'est la catégorie à lui tout seul, on a tendance à s'intéresser à tous ceux qui le remplissent. Mais il est l'homme catégorie, en l'occurrence le personnage qui crée la matrice. Le super-héros, c'est lui, fondamentalement. Donc on le voit tout à la fin de la Brigade Chimérique, il apparaît et c'est lui qui en fait organise le passage de relais entre l'Europe et l'Amérique sous le nom de Monsieur Steel. Il ne fait que commencer sa carrière, donc voilà, dans la brigade, on ne le nomme pas, il n'est pas connu, tout le monde se demande qui il est, on sent simplement qu'il est aux commandes depuis très peu de temps. Dans Masqué, il y a eu un immense plaisir à le faire apparaître au coin d'une case, d'abord dans le tome 1 où on voit sa cape. Et voilà,
41.
Bon, l'incident 41. Et dans le tome 4, il est sur une photo dans les jardins de la Maison Blanche. Et il est la source de fascination d'un des personnages, le colonel Hassan, qui, lorsqu'il était en poste à Washington, a eu l'occasion de le côtoyer et ne s'en est jamais remis. Voilà. Ce gars, c'est pas tant qu'il soit un patriote, c'est qu'il ne supporte plus, après avoir été en contact avec ce qu'il appelle la puissance à l'état pur, c'est de vivre dans un monde où cette puissance n'est pas représentée. Voilà. Ce qui est notre position, d'une certaine manière. Hassan, là, nous sert de porte-voix. Mais comme la plupart des personnages, chacun exprime un aspect de notre attitude par rapport au thème des super-héros. Donc Hassan, en tant que militaire de carrière nommé à l'OTAN, a eu l'occasion de côtoyer Superman à Washington. Et quand il est rentré en France, il s'est mis en cheville avec Bourgard. Il a décidé de l'aider à organiser Paris Métropole et de l'aider à faire bouillonner, à réveiller les énergies créatrices du surhomme. parce que c'est quelque chose dont il ne supporte pas d'être privé, parce que la vie sans cette présence des deux médias parmi nous est fondamentalement moins intéressante. Et il le dit même, c'est un dialogue que je trouve émouvant, et j'en parle toujours comme si c'était pas moi qui l'avais écrit, parce que dès que je l'ai écrit, c'est plus moi qui l'ai écrit, c'est les personnages qui l'ont dit. Voilà. Donc, il le dit à un moment, je trouve ça beau de sa part, j'ai même cru que ce serait moi. Voilà. Je crois qu'à un moment, il a rêvé que ce soit lui, quoi. Que ce soit lui, le super-héros parisien. Et donc, c'est un peu son testament, cette photo.
Oui, mais en même temps, c'est la chronique d'un héros ordinaire.
Oui, absolument. Mmh. C'est quelqu'un qui a fait ce qu'il a pu, et quand il a vu que le plan dans lequel il était embarqué tournait très très mal et menaçait la vie de gens innocents, il a même essayé d'arrêter ça, mais il n'en a pas été capable, il paye le prix.
Alors l'autre clin d'œil qui pour ma part a été une vraie claque, c'est la superbe double page que Stéphane a mis en scène, où on voit finalement tous les liens, que ce soit avec la mythologie, le héros mythologique, le merveilleux scientifique, le passage à la science-fiction, tous les héros qui ont constitué, pour ainsi dire, le sang et le ferment d'une nation, pour aboutir au final au tien.
Oui, c'est un... Alors là aussi, c'est pareil. Tu sais, quand on en parle a posteriori, on a toujours l'impression que c'est... On est capable d'expliquer, voilà. Donc, on est capable de rationaliser le processus créatif. Sur le moment, c'est beaucoup plus empirique et intuitif que ça. On tâtonne, on cherche les meilleures solutions. Mon idée à moi, c'était une idée qui était intimement liée à l'évolution du personnage de Franck. C'est-à-dire que Franck, pendant les trois premiers tomes, il est dépressif. Il hérite de pouvoirs qu'il n'a pas demandé. Son seul désir, c'est d'obéir, c'est de servir une cause à laquelle il croit. Et l'armée l'a rejeté. Et quand il se met au service du préfet Bourgard, il réalise qu'il est au service d'un aventurier politique totalement cynique et joueur, les deux. Et qui ne prend aucune précaution. Et au fond, peu importe ce qui arrive, quoi. Si tout finit dans une explosion de violence, c'est pas grave si c'est esthétiquement satisfaisant. C'est un vrai situationniste fou. Donc Franck, il assume absolument pas ce qui lui arrive, mais il peut pas s'empêcher d'obéir, c'est son ADN. Et cette double page représente le moment où, en entrant symboliquement en contact avec le plasme, il est aussi en contact avec la tradition européenne du surhomme et du héros. Tradition qui remonte effectivement à l'Antiquité grecque, avec Achille et Ulysse, au Moyen-Âge, aux héros classiques comme Don Quichotte, et jusqu'aux merveilleux scientifiques avec Sherlock Holmes, Arsène Lupin, le Capitaine Nemo, le Nyctalope, etc. Voilà, donc on voit cette rosace de héros qui se déploie depuis un centre originel qu'on n'élucide pas. C'est un squelette enfoui, on va dire le premier roi néolithique dont on a perdu le nom, mais qui est toujours là parmi nous, comme figure matrice du roi-dieu. Et lui, Franck, d'un seul coup, en entrant en contact avec cette tradition, il comprend qui il est. C'est-à-dire que c'est le moment où il accepte qui il est. Il comprend qu'il n'est pas du tout une aberration. Il comprend que son désir d'appartenir n'est pas une maladie. Il comprend que c'est légitime d'être comme ça, d'avoir ces besoins-là et d'avoir ces pouvoirs-là. Et c'est le moment où il l'accepte, parce que ça a un sens historique. Voilà. Et en fait, c'est une traduction aussi de ce qui nous est arrivé, nous, dans le processus créatif. Moi, ça m'est arrivé dans la brigade et je suis très heureux que Stéphane ait embrayé et se soit emparé de cette matière. C'est que jusqu'à ce que je me plonge dans les héros du merveilleux scientifique, pour moi, le thème des super, il était américain. Et puis un jour, je me suis mis à lire, on en avait parlé pour les interviews sur la brigade, massivement la science-fiction européenne des années 1870-1950. Et elle est pleine de figures de super-héros potentiels. Opération qu'Alan Moore a dévoilé de son côté dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est un coup de maître. Et d'un seul coup, l'espace mental s'ouvre. C'est-à-dire on se dit, ah, mais la tradition du super, on a de quoi ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à importer des modèles américains qui seront jamais, au fond, qui ne mobiliseront jamais les énergies symboliques dont on a besoin. On a nos propres héros qui peuvent revivre, et une tradition de la mythologie urbaine qui peut se réamorcer si on lui offre le biotope qui convient. Et c'est le moment où ça se joue dans Masquer cette double planche en rosace. Et on a regardé, c'est très marrant parce qu'au fil des interviews qu'on enchaîne depuis deux jours, la photo de Superman et la double planche en rosace, c'est les deux choses qui ont frappé. Et on va pas faire semblant de ne pas l'avoir su. Quand on l'a fait, on savait que ce serait comme ça. On savait parce que c'est ça qui est merveilleux, c'est que les énergies symboliques, quand on les éprouve en créant, on sait que les lecteurs les éprouveront en lisant.
Alors vu que tu parlais de Beauregard, on va revenir un peu sur ce personnage, déjà avec le sublime jeu de mots que tu t'es permis par rapport à l'évolution du personnage du tome 1 au tome 3 et à la révélation finale du tome 4, ou à l'impression d'avoir une espèce de Jack Nicholson jouant au Joker dans les deux derniers, en même temps avec tout un processus girant à la Marvel où au final on se rend compte que le type qui avait l'impression qu'il contrôlait tout, c'est finalement le plus malheureux de tous, qui a fait des plans foireux sur la comète et qui voit tout lui revenir dans la gueule jusqu'à la fin. Et bon, là tu y es pour rien, mais quand on y songe, il y a un clin d'œil savoureux avec Cahuzac où tu te rends compte qu'à la fin, le type qui est censé être préfet de police finit en taule, comme le
dans
mec
sa
qui
propre
était
prison.
Censé, voilà, courir derrière ceux qui planquaient leur pognon, on le faisait très très bien lui aussi.
Oui, c'est vrai. Non, mais Bourgard, moi, c'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Bon, je savais dès le départ que, comme j'avais. Il avait dès le départ une sorte de super pouvoir embryonnaire qui est le charisme politique, c'est-à-dire que du charisme à l'hypnose, il n'y a qu'un pas, c'est-à-dire du charisme au contrôle mental des gens, il n'y a qu'un pas. Voilà, donc Bourgard, c'est l'homme qui vient regarder au fond de ton âme et qui sait exactement de quoi tu as besoin symboliquement, donc il te le donne et du coup tu es fan. Dans le tome 1, on avait dit, il y avait la première question des journalistes dans la conférence de presse, c'était « Trouvez-vous normal pour un préfet d'avoir des fans ?» Bon. Et ils disaient « Oui, j'y avais pas réfléchi, question amusante. » Enfin bon, il joue, quoi. Et c'est un personnage qui joue tout le long des quatre albums, il joue. Et même à la fin, quand il affronte Franck, et que Franck se révolte contre son cynisme et son absence de scrupules, à un moment, il semble se ressaisir. Bourgard dit « Mais voyons, je joue un rôle. Tout ça, c'est pour que les gens s'amusent. Voilà. » Et puis après, il repart dans sa folie. Mais pendant un moment, il montre son vrai visage. C'est aussi quelqu'un de malheureux. C'est quelqu'un qui joue un rôle, c'est vrai. Et comme tous les comédiens, il faut y croire suffisamment pour que ce soit vrai. Et en même temps, on n'abandonne jamais complètement sa vraie identité. La vraie identité, au fond, de Bourgard, c'est quelqu'un qui est amoureux éperdument de Cléo Villanova depuis qu'ils étaient ensemble à la fac. Et qui a été jusqu'à lui offrir Paris comme terrain de jeu pour les théories de la psychogéographie. Et au fond, elle éprouve rien. Donc il est désespéré, il dit bah, puisque c'est comme ça, on va finir en beauté.
Alors l'autre clin d'œil pour ma part très très savoureux avec justement l'explosion et comme tu en parlais, le plasme, on a le sentiment, arrivé à la fin de ce premier cycle, que tout le cas, le véritable héros en somme, c'est la ville qui est Paris. Ça, tout est là pour montrer, je dirais, pas seulement un terrain de jeu, mais effectivement une ville quelque peu mythique, voire même complètement mythifiée, et qui s'étend inexorablement, que ce soit dans les mémoires ou au niveau de l'espace géographique. Et en même temps, il y a tout le temps des petites références que tu mets ici en scène. Cette gargouille finalement qui sort de Notre-Dame pour pouvoir extirper littéralement le mal des êtres humains qu'elle croise. Ce clin d'œil justement qui a fait un moment au héros quand celui-ci lui dit bah, c'est le préfet qui est en train de s'engueuler avec le maire. C'est quoi, il lui rétorque bah, le préfet de police s'est souvent engueulé avec le prévôt de Paris tout au long de l'histoire. Ou quand justement Beauregard demande à la population de se lâcher, on a l'impression de revoir un clin d'œil aussi au fait que Paris, c'est un peu le ferment des révoltes et aussi des révolutions.
Oui, toujours.
Et du passage justement, effectivement, du verbe à l'acte.
Ben, y a tout ça. Encore une fois, c'est une question d'énergie symbolique. C'est-à-dire que, tu vois, mais c'est les deux. C'est-à-dire, quand on est en train de créer et qu'on essaie de créer quelque chose d'intéressant, je ne sais pas si c'est profond, mais on essayait d'être intéressant et intense par moments. Il y a une dialectique entre la planification, le récit, l'argument, les faits tels qu'ils s'agencent et ce qui se passe pendant le processus de création. Sur la gargouille, par exemple, je savais dès le départ qu'à un moment, on aurait recours dans le tome 3 à l'imaginaire du Paris classique, voire médiéval, parce que les tomes 1 et 2, c'est dans le Paris moderne. Et je voulais que le Paris moderne et le Paris classique soient articulés. Donc je me suis dit, bon, personnage, gargouille, formidable. Je commence à me documenter sur les gargouilles. Et j'apprends, ce que je ne savais pas avant cette documentation, que les gargouilles sont des personnages positifs. C'est-à-dire qu'on les voit comme des monstres et des démons, non, mais ils sont monstres et démons pour repousser le mal, pour faire peur au mal. Voilà. Et fonction qui est traduite symboliquement dans leur organisation physique, ils recrachent l'eau des gouttières. Voilà.
En plus, excuse-moi de te couper, je pense qu'il y a aussi une référence. La gargouille, la plante templier, inconsciemment, moi je l'ai rapproché de la figure mythique du Baphomet.
Oui, il y a peut-être ça, oui, effectivement, je n'y avais pas pensé, mais le Baphomet, c'était un mythe très intéressant lié au templier. Enfin, donc, si tu veux, d'un seul coup, je me suis dit, bah voilà, on va utiliser le personnage à contre-emploi et prendre le lecteur à contre-pied. d'après son aspect, d'après les premiers actes qu'on voit faire de l'extérieur, cette espèce de voilà, il saisit les gens, il leur écrase la tête, il recrache un flot de mouche, on se dit c'est terrible, c'est horrible, et en fait pas du tout, c'est des exorcismes. C'est-à-dire qu'il guérit un pédophile, il guérit un bourreau d'enfant, et finalement il guérit Franck. Il guérit Franck de sa dépression. Donc, et il efface à la fin la mémoire de Bourgard parce que c'est la seule issue qu'ils ont trouvée non violente pour, le, pour l'empêcher de révéler l'identité de Franck. Donc, toutes ces idées-là, elles viennent en écrivant. Tu vois, on a un canevas et on sait, si on fait confiance au processus créatif, que les bonnes idées viendront au bon moment. Voilà. Alors parfois, elles sont plus ou moins bonnes, parfois c'est plus ou moins le bon moment, mais sur l'ensemble, ça crée de la vie, ça crée un récit intéressant et parfois intense. Donc, pour répondre complètement à ta question, c'est vrai que Paris, on a deux Paris aujourd'hui, y compris ceux qui y vivent. Je mets à part évidemment les érudits, c'est-à-dire ceux qui connaissent très bien l'histoire de Paris, qui sont amoureux de la ville au point d'en connaître chaque rue, chaque recoin et les légendes de chaque place ou chaque grenier. Paris, on a de Paris une vision très folklorique. Alors la grande différence entre le folklore parisien et le folklore new-yorkais, parce qu'il y a aussi un folklore new-yorkais, c'est que dans le folklore new-yorkais, il y a King Kong au sommet de l'Empire State Building, il y a le Baxter Building, il y a Spider-Man accroché à la façade, et que donc l'imaginaire et la mythologie contemporaine sont intégrés dans le folklore. Nous, notre folklore, il est passé. C'est-à-dire que les grandes figures du folklore parisien, que ce soit Nicolas Flamel, les alchimistes, le Louvre, Belphégor, tout ça, c'est des vieilles choses, c'est des vieilleries. Et la question, on peut les visiter, trouver que ça a un charme fou, on peut de temps en temps faire le Da Vinci Code pour faire une sorte de guide touristique du Paris ésotérique, mais ça ne nous aide en rien à avancer dans le futur et à refaire de cette ville un endroit qui soit en contact avec les énergies mythiques, spirituelles de l'époque. Donc nous, notre but, c'était de montrer qu'au fond, tout ça, c'est un seul et même état d'esprit, que la magie du regard du lecteur qui prête vie à une gargouille, c'est exactement la même magie qui prête vie à un super-héros, c'est la même chose. C'est croire à des prodiges, et c'est croire à des prodiges rattachés ou issus du substrat d'une ville, de ses immeubles, de la forme qu'ils ont, des statues qu'on y voit, de la couleur du ciel, de la topographie, des références historiques qui s'imposent, des grands mythes qui ont circulé autrefois et qui peuvent à tout moment se réactiver. Donc oui, Paris est le personnage central, ce n'est pas un corps de bâtiment, c'est un état d'esprit, c'est une énergie spirituelle endormie qui se réveille, et c'est finalement la figure de Franck, l'optimum, qui devient de son plein gré l'icône symbolique de ce nouveau Grand Paris.
On en a même d'autres, le personnage du fuseur, qui finalement est quelque part créé par la ville. Un dernier qui apparaît très rapidement dans le tome 4, où on se rend compte que la ville est en train de transformer.
Garcia.
Donc j'ai le sentiment qu'on tardera pas à le revoir. Tu as toute la société secrète que tu as mis en place,
les Newtoniers,
oui. Observe, où au final on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Et en même temps, tu as la ville qui finalement se cherche un représentant, quelqu'un à travers qui elle puisse parler. D'où toutes ces anomalies qui finalement fleurissent pour mourir à vitesse grand V, avec peut-être le besoin que la ville a besoin de parler finalement aux
êtres humains. Elle parle à un moment, c'est-à-dire que pendant toute l'histoire, les anomalies émettent des sons inarticulés ou parlent dans un langage que personne ne comprend. Et finalement, il y a un seul moment où elles disent quelque chose qu'on comprend, c'est quand la très très grande anomalie sort de la scène dans le tome 4 et avale Franck. Et ça grippe à la tour Eiffel. Juste avant l'explosion, c'est-à-dire juste au moment où Franck entre en contact avec le plasme, accepte la tradition dont il est le dernier représentant, accepte son statut de super-héros parisien, la grande anomalie parle. Elle dit trois phrases, elle dit « Je vois qui nous sommes, des rois déchus, des conquérants conquis. » Voilà. Parce que je voulais montrer qu'au fond, si la ville pouvait parler, elle dirait sans doute ça. En tout cas, selon moi, elle dirait ça. Elle dirait « Nous avons été grands, nous pourrions l'être à nouveau. »
En fait, tu parles du choc. Pour moi, c'est un peu ça. C'est ce que tu montrais dans la Brigade chimérique. C'est le choc qui a été la Seconde Guerre mondiale.
Oui, bien sûr.
La défaite.
Bien sûr.
C'est où finalement, intellectuellement, ou voire même au niveau de l'imaginaire, on s'en est jamais relevé.
Si, le truc extraordinaire qu'a fait De Gaulle, c'est d'imposer un méta-récit selon lequel nous n'avons pas perdu. Nous avons gagné. Nous avons résisté depuis le premier jour. Quand il dit « La France est libre ici », Il enlève la France à Pétain pour dire elle est ici, la vraie France est ici, c'est moi qui elle parle par ma bouche. Et donc comme la vraie France parle le 18 juin, un jour après la signature de l'armistice, nous n'avons pas perdu, ou alors nous avons perdu un jour. Voilà, bon. Mais ensuite la résistance a commencé, la France libre a commencé. Bon. Et ce méta-récit là, la France évidemment y a adhéré de façon affamé, parce qu'il n'y avait pas le choix pour, sur le plan justement des symboles. Mais on peut adhérer à un récit rationnellement et en sachant inconsciemment que c'est faux. Voilà. Je pense qu'inconsciemment, nous avons perdu cette guerre. Tout comme inconsciemment, les blessures infligées par la Première Guerre mondiale ont rendu le fait d'avoir gagné la Première Guerre mondiale complètement sans signification. On l'a gagné, mais au prix d'une mutilation dont les gueules cassées sont un symbole absolument parfait. Tout ça pour raccrocher avec l'homme truqué, d'ailleurs. Mais c'est la même chose. À quoi sert de dire « nous avons gagné » quand on est en aussi, aussi piteux état que celui qu'on est censé avoir battu? On n'a ni gagné, ouais, ni battu.
Tu as une très très belle scène justement que tu montes dans l'homme truqué quand il regarde justement la vie. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voyez? On a gagné.
On a gagné la guerre, ouais. Bah oui. Bah oui, parce que lui aussi, c'est un soldat, le Brie. Il rentre et, du front, enfin il rentre pas du front, il a été kidnappé pendant 6 mois. Il comprend pas ce qui lui est arrivé. On lui a greffé un appareil qui envoie dans son cerveau des images qui n'ont presque aucun sens. Et quand on lui a expliqué sa situation, quand on lui a expliqué qu'il y a eu l'armistice, que la guerre a été gagnée, il a été capturé sur le chemin des dames en pleine offensive quand même, donc allemande. Donc il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. D'un seul coup, c'est, voilà, c'est la fin, c'est fini. Mmh. Cette guerre a duré 4 ans et voilà, c'est le retour à la vie civile.
Puis en même temps, tout cet éclairage sur l'œuvre de Maurice Renard et toujours ce problème de communication. Tu t'aides à travers tes petites araignées qui, au final, tentaient juste, pour ainsi dire, de rentrer chez elles.
De rentrer chez elles, oui.
Sauf que tout ne se termine pas comme dans E.T.
Non. Ben, moi, c'est toujours très curieux. Les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'assez heureux et d'assez gai, mais mon imaginaire est très sombre. Donc, j'essaye, disons, de nuancer les choses, de montrer. C'est vrai, L'homme truqué, c'est un livre très mélancolique, en fait. C'est un livre sur l'impossibilité du retour à la vie civile. Et c'est un livre aussi sur l'isolement des êtres supérieurs, c'est-à-dire aussi bien le nyctalope, la dernière photo, la fausse photo de Brassailles, qui est une image que je trouve splendide. C'est une photo qui, voilà, elle n'est pas intitulée par hasard Paris de nuit, quoi. C'est la solitude des gens, de ces gens la nuit, les sentinelles, voilà, nos sentinelles imaginaires. Ils sont là, ils voient pas ce que les autres voient, ils n'ont pas le même visage, et donc ils sont seuls, forcément. Et c'est un thème que je trouve très fort et très touchant quand on parle de super-héros. C'est une chose où il y a de l'énergie à prendre.
Alors, est-ce que ça t'a, d'une certaine manière, touché de voir qu'aussi, au niveau de l'imaginaire francophone, t'as un retour, petit à petit, du super-héros? On le réintègre, finalement, dans notre imaginaire, que ça soit à travers Miss Deepland, de Stéphane Louis, qui va sortir d'ici mi-avril chez Claire de Lune, où il y a une superbe double page finale, où on aperçoit, justement, le héros démasqué au milieu de super-héros français. Ou je pense aussi au garçon renard de Laurent Lefebvre qui s'amuse à
très bel hommage à Strange.
Voilà.
Très bel hommage à Strange à Nantes. C'est ça, hein.
C'est ça. Et en même temps, des clins d'œil qu'il faisait déjà dans son bouquin, son splendide bouquin, devrais-je dire, La merveilleuse histoire des éditions Roy, où il imagine une petite maison d'édition totalement virtuelle, qui c'est une espèce de Luc du pauvre. Sortant des fascicules et recyclant, pour ainsi dire, ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'ils finissent par s'écrouler sur elles-mêmes, des héros de fascicules qui préparent de manière inconsciente ou qui sont totalement pillés sur des héros connus.
Écoute, en fait, je réponds à ta question de deux manières. D'abord, on n'en est pas encore au temps de l'hommage, mais je sais, même si je suis plus en pointe sur l'actualité de la science-fiction et même de la bande dessinée, d'ailleurs je lis ce qui vient, je lis le grand choc que j'ai éprouvé ces derniers temps, c'est la lecture de l'Ascension du haut mal de David B, où j'ai trouvé un truc extraordinaire. C'est une autobiographie sur de lui avec son frère qui est épileptique. Bon, c'est génial, c'est puissant, génial, et c'est sorti en 95-96, donc tu vois, je suis pas en pointe de l'actualité. Donc je regarde ce qui se passe, je vois qu'il se passe deux choses. Il y a un intérêt pour le merveilleux scientifique, pour la vieille science-fiction. Il y a plusieurs rééditions, il y a des auteurs qui ressortent. Je vois des messages de gens qui disent « J'ai découvert Maurice Renard dans L'Homme truqué, j'ai commencé à lire L'Homme truqué, la nouvelle originale, c'est formidable, je ne savais pas que ça existait. Bon. » Voilà, donc on voit que ça circule. Et d'autre part, il est clair qu'il y a un vrai effet générationnel sur le thème des super-héros. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont grandi en lisant les comics et la Marvel et qui disent « Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à faire ça en France. » Toute la question est... Est-ce que ça va rester un truc générationnel qui peut éventuellement produire des chouettes, des grandes œuvres, quoi, des choses vraiment intéressantes, ou est-ce que ça va finir par concerter l'ensemble de la culture et de la société? Voilà. Quelle est l'échelle du phénomène? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, mais ça peut déboucher sur quelque chose d'assez formidable.
Alors avant de nous quitter, on va embêter Stéphane Créti. Stéphane,
oui.
qu'est-ce qui t'a motivé à re-signer pour 2 tomes supplémentaires?
Quelle bonne question. Excellente question. Pour l'instant, on n'a rien signé du tout. Pour l'instant, on va s'offrir quelques petites vacances avec Serge. On va faire quelque chose de aux antipodes, d'une certaine manière. Enfin, une sorte de parenthèse. La création des 4 tomes de Masqué nous a laissé dans un piteux état, ça se voit là. A été extrêmement exigeant. Et voilà, avant d'aborder quoi que ce soit d'autre, pour l'instant, on va se consacrer à un projet qui n'a rien à voir et qui est assez motivant, à vrai dire. On en a parlé seulement depuis hier soir, mais c'est assez motivant.
En tout cas, messieurs, merci. Puis j'allais dire, pour une fois, le mot de la fin ne restera ni à Serge ni à Stéphane, mais plutôt en songeant à une chanson qu'on a tous redonnée à un moment ou à un autre, Heroes de David Bowie.
Yes!